Merci et bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
La recherche des ancêtres m'a toujours paru assommante et même douteuse. Quelle mouche pique ces gens qui partent en quête de générations anciennes et les vampirisent en se construisant d'augustes histoires. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire un test ADN, de farfouiller dans les archives, ni de partir sur les traces d'inconnus pour m'attendrir sur des momies d'un autre temps. Toutefois, en finir avec la généalogie ne se décide pas d'un claquement de doigts. Pourquoi me soucier à présent de mon grand-père, Raïm, non pas en raison du lien de sang, mais parce que je lui dois mon nom et ma nationalité française. François Noudelman, les enfants de Cadillac. Mon frère a disparu depuis 3 jours. Il a laissé un sac dans mon appartement. Mon frère a disparu. Il a laissé un sac noir, sans marque, dans un placard que j'observe comme si c'était... une météorite, il a disparu avec mon passeport. Météorite ou miroir, mon frère s'appelle Pierre-Henri, ma mère l'a toujours appelé Pierre. C'était en fait le prénom de son père qui a été tué par des soldats allemands quand elle avait 6 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que tout vient de là, finalement. Alexandre Labruf, Vanderlands. Vous l'avez compris, ce soir dans l'heure bleue, 3 sujets, les secrets de famille, ses conséquences et ses dégâts, et 2 invités, François Noudelman pour les enfants de Cadillac et Alexandre Labruf pour Wonderlands, mais comme chaque soir, nous commençons en musique avec Jay-Z. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's
lights. is blinding. Girls need blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple, Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Tous les deux, François Noudelman et Alexandre Labruf, vous vivez à l'étranger. Vous, François, vous vivez à New York, d'où le titre de cette chanson que vous avez choisie, qui célèbre New York, où vous enseignez. Et vous, Alexandre, vous vivez à Wuhan, d'où vous êtes venu pour la sortie de votre nouveau livre. François Noudelman, on vous connaît comme philosophe, auteur de nombreux livres, une biographie d'Édouard Glissant, un livre sur Jean-Paul Sartre il n'y a pas très longtemps, un livre sur le toucher des philosophes, bref, pas grand-chose à voir avec votre propre vie, ni avec vos démêlés autobiographiques, mais je crois comprendre que c'est parce que vous viviez à l'étranger, donc à New York, que tout d'un coup, quelque chose de l'ordre d'un surgissement d'une histoire familiale, d'un secret de famille, vous est tombé dessus parce que justement, vous ne viviez plus dans la ville de vos ancêtres.
Oui, c'est vrai. En fait, mon grand-père était un étranger qui est arrivé en France au début du XXe siècle, qui est arrivé de Russie, enfin de Lituanie, parce qu'il n'existait pas encore. Et puis, donc, il est arrivé comme brocanteur et analphabète. Et il a essayé de s'intégrer. Alors, on parlera peut-être de son histoire. Mais donc, tout ce parcours-là, à travers lui, mon père et moi, c'est un parcours qui va d'un étranger en France à un Français à l'étranger. Donc, effectivement, moi, je me retrouve dans cette situation où, tout d'un coup, étant loin, alors que vraiment, bon, vous avez cité l'introduction, moi, la généalogie, j'ai même écrit un livre qui s'appelle « Pour en finir avec la généalogie », ça me casse les pieds. Et là, tout d'un coup, je me suis posé la question de ce que, finalement, ce que je devais à des gens qui n'ont pas cherché à me transmettre quoi que ce soit. Et puis, à me dire, voilà, au fond, qu'est-ce que c'est qu'hériter, notamment, qu'est-ce que c'est qu'hériter de personnes qui ont tant voulu être français, qui ont tant aimé la France, qui ont voulu s'assimiler et qui ont voulu s'assimiler au tel point qu'ils ne voulaient absolument rien transmettre de leurs propres aux origines. Je me suis dit que je lui devais à ce grand-père inconnu qui a passé 22 ans en asile psychiatrique, que je lui devais à la fois ma nationalité et mon nom, et que aussi quelque chose du lien entre la francité et la folie était lié. Et donc j'ai interrogé cela, et en plus il y a eu une espèce de hasard objectif. Bon, j'ai été invité, j'étais jamais allé à Sainte-Anne, à l'hôpital de Sainte-Anne, et donc là tout d'un coup on m'avait demandé de parler, de faire une conférence, et je me suis dit brusquement, voilà, mon grand-père était là, il a été là très très longtemps. Donc ce nom qui est le mien, en fait, c'est le sien que j'entendais, alors que je ne l'ai jamais connu. Il est mort en 41. Tout cela m'a provoqué. Et puis, juste pour dire un petit mot sur le fait que, bon, c'est vrai, jusqu'à présent, j'ai pas parlé de moi, mais au fond, je me suis dit, un jour, il faut parler à visage découvert. C'est-à-dire, on se cache souvent derrière des grandes théories, des grands concepts. Donc moi, j'ai parlé de la généalogie, blablabla, etc. Bon, pourquoi ne pas dire les choses et dire, au fond, ce qui nous motive quand on théorise, quand on pense. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette entreprise plutôt autobiographique, même si c'est l'autobiographie aussi de mon grand-père et de mon père.
D'autant plus que le silence avait été fait sur cette histoire familiale.
Bon, on parle pas trop de la folie. Bon, c'était aussi une famille qui avait besoin de survivre. Donc lui, bon, il est arrivé et s'est engagé pour devenir français. Il s'est engagé dans l'armée française. Il a été envoyé sur le front en 14-18. Il a pris une bombe au gaz moutarde sur la tête. Et donc à ce moment-là, voilà, les choses ont déraillé. Et la famille, en fait, l'a abandonné. Et donc j'ai bien senti que dans la famille, on ne parlait pas, on savait même pas où il était. Moi, j'ai fait des recherches, on m'avait dit, oui, il est du côté de Langon, c'était faux, dans une fosse commune. En fait, il y avait une sorte de mauvaise conscience dans cette famille, au fond, de l'avoir abandonné, ce qui était vrai. Et puis après, évidemment, au moment de la guerre, les hôpitaux psychiatriques ont été abandonnés de fait.
Et beaucoup de gens y sont morts.
Voilà, 40 000 personnes fous sont morts de faim, ce qu'on appelait l'hécatombe des fous. En 41, il est mort de cachexie, donc de famine. Ce qui fait qu'effectivement...
Comme Camille Claudel et tant d'autres.
Exactement. Ce qui fait qu'il restait aucune trace de lui. Bon, moi, j'étais pas dans les recherches généalogiques, donc voilà, au fond, je me suis dit, bon, je m'en fiche, c'est pas mon histoire. Bah, finalement, en creusant, on se rend compte que, même si on a la prétention, comme moi, de dire, ouais, ma vie m'appartient, je fais ce que je veux de ma vie, c'est moi qui me crée, en fait, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises sans qu'on le comprenne. Et cette enquête, donc, sur les deux guerres, c'est-à-dire la guerre de mon grand-père et aussi ses 22 ans en HP et puis la guerre de mon père, voilà, cela m'a amené à comprendre aussi mes façons d'agir, mes façons de penser.
Ce qui est intéressant dans cette démarche, François Noudelman, vous qui êtes philosophe, c'est qu'il a fallu un choc sensoriel et une imprégnation des lieux.
Oui.
À vous lire, on a vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose parce que par le plus grand des hasards,
oui,
vous êtes retrouvé physiquement à Sainte-Anne.
C'est ça. Et bon, en même temps, je disais,
quelque chose qui vous appartient pas, vous est tombé littéralement dessus.
C'est ça. Et bon, ce lieu est plutôt agréable quand on le visite, quand on n'est pas soi-même impliqué pathologiquement. Voilà, c'était tout un monde qui au fond me faisait un petit peu peur parce que quand on parlait de Sainte-Anne, bon, c'était toujours un peu le lieu de l'incarcération. J'ai été amené du coup à voir un autre lieu psychiatrique qui est le lieu où mon grand-père avait été transféré, qui est l'hôpital de l'asile de Cadillac.
Près
de Bordeaux, en Gironde, et qui est un lieu très particulier parce que c'est une ville en fait qui est absolument magnifique, petit village, mais où il s'est passé, il y a eu une histoire incroyable dans cette petite ville. Il y a eu des internements de jeunes filles, récalcitrantes, des prisons de femmes, et puis encore aujourd'hui, l'hôpital psychiatrique est un des plus célèbres de France parce que on y enferme les fous les plus dangereux. Donc en fait, quand je suis allé là-bas, j'ai fait mon enquête et hasard encore incroyable. Il se trouve que ce cimetière que la mairie voulait raser, la mairie de l'époque, il a été réhabilité contre vents et marées. Et donc ce lieu, je ne savais pas d'ailleurs moi qu'il existait des cimetières de fous, comme si évidemment on réservait ces cimetières. Et alors il y a une conjonction entre cimetière de fous, cimetière d'anciens combattants, là, dans ce petit lieu, et qui était complètement laissé à l'abandon. Et le président du conseil régional, Alain Rousset, a décidé de rénover ce lieu. Et je me suis retrouvé, au moment où je faisais mon enquête, en pleine aussi querelle sur cette réhabilitation. Donc Cadillac, ça a été pour moi une expérience très forte, physique, comme vous le dites, de voir ces fosses communes, ces tombes, ces espèces de croix rouillées qui étaient mises là. Donc je me suis retrouvé embarqué, et alors là, tout d'un coup aussi, découvrant une communauté d'enfants de Cadillac, c'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées et qui, comme moi, au fond, s'intéressent à ces oubliés, c'est secret de famille, puisqu'on, les fous, on n'en parle pas, les fous n'ont pas d'histoire. Et donc, je me suis retrouvé effectivement avec des petites sœurs et des petits frères de Cadillac, parce que eux aussi, souvent des immigrés d'ailleurs, ont un ancêtre espagnol, italien, sénégalais, parce qu'il y a eu les tirailleurs sénégalais qui ont été aussi enterrés là, et qui se retrouvent ensemble à essayer de penser cette mémoire oubliée. On appelle ça le cimetière des oubliés aussi là-bas, et aussi du coup ces secrets de famille.
Alexandre Labru, vous connaissez peut-être d'ailleurs Cadillac parce que vous êtes né à Bordeaux, et dans votre nouveau livre, le troisième, donc vous parlez de cette région, et pour cause, puisque vous signez un livre qui s'intitule Wonderland, après deux autres livres très remarqués, Chronique d'une station-service et l'avant-dernier s'intitulait Un hiver à Wuhan. Vous reprenez vos codes d'écriture, c'est-à-dire une écriture dispersée, des paragraphes très éclatés, une mémoire complètement en vrac, pour essayer de raconter, de restituer, plus que de raconter d'ailleurs, parce que les temps sont brouillés, une histoire de famille extrêmement douloureuse. Vous n'habitez pas New York, vous arrivez de Wuhan.
Et si je suis parti d'ailleurs à Wuhan, c'est pour fuir sans doute cette famille et cet incendie qui dans lequel j'ai été pris en fait, puisque comme François en fait, moi aussi je déteste alors pas l'idée de famille, mais je déteste les enquêtes familiales. Et ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je fréquente la Chine, et je crois que c'était une sorte de protection. Et je me suis toujours éloigné de ma famille, de ces histoires, et ça m'ennuyait, ça me barbait, ça me cassait les pieds, comme le disait François. Et en fait, les secrets de famille, c'est ce dont je parle dans Wonderland aussi, c'est comme un tatouage indélébile et invisible. En fait, c'est comme le cercle du canon d'un revolver, en fait, d'un revolver invisible qu'on pointe sur la tempe. Et là-bas, la balle finit toujours par partir. Et là, la balle est partie. Et comment? Parce qu'en fait, mon frère s'est fait incarcérer. Je le retrouve en détention provisoire du jour au lendemain, alors qu'on est une famille a priori sans histoire. Enfin, sans histoire, mes parents étaient psy. Et donc, du coup, ça, il faudrait peut-être y revenir. Et du coup, à partir de cette incarcération, qui est une détention provisoire, une sorte de garde à vue qui, sans procès, qui va durer 11 mois, je me réinstalle dans les Landes. Les Landes que j'ai toujours fui, en fait. Moi, j'ai fait un
jusqu'à Wuhan.
Jusqu'à Wuhan. J'ai fui les Landes jusqu'à Wuhan. D'ailleurs, à Wuhan, non. C'est autre chose qui m'a rattrapé. Un virus. Mais, parce que j'y suis allé en 2019. Et du coup, j'étais aussi dans une sorte de déni. Un déni des Landes, un déni de mon enfant, mais quoique, lapsus.
Pour ma mère dirait.
Ouais, c'est ça. Ma mère disait les lapsus en disent très long. Et, un déni des Landes. Et du coup, j'ai été obligé de me réinstaller dans les Landes pour essayer de démêler les fils de cette histoire. Pourquoi mon frère était emprisonné? Mon père m'appelait aussi au secours, en fait. Donc je me suis réinstallé dans cette forêt que je haïssais et que j'ai appris à aimer à nouveau, en fait. Et je pense que Cadillac, effectivement, moi j'en ai entendu parler pendant toute mon enfance, et peut-être que c'était l'épouvantail. Et en lisant le livre de François, je me suis dit, c'était sans doute l'épouvantail de ma famille, en fait. Ma famille et de mes parents qui étaient psy, parce que ce que je découvre, en fait, en tirant le fil, moi, je pars dans une enquête, une sorte de polar psychédélique et punk, en disant, mais c'est quoi? Il y a des gitans, il y a des huissiers, il y a des vigiles. Enfin, c'est une histoire improbable. Pourquoi ils se retrouvent en prison? Il y a des pelleteuses, on retrouve des choses improbables dans la maison landaise de mon père.
Des godemichés aussi.
Ouais, des godemichés, oui. Des Rolex enterrés. Enfin, bon, bref, des choses. Tout un inventaire d'objets à la Prévert qu'on retrouve dans la propriété de mon père. Donc, en essayant de démêler les fils, le fil de cette histoire, je tire le fil, et c'est des souvenirs qui viennent, en fait. Puisque j'ai réemprunté les routes et réemprunter ces routes landaises, en fait, ces longues lignes droites, à peu près monotones, ça rouvre des portes. Ça rouvre les portes de mon enfance et des souvenirs. Donc, les souvenirs percutent. Ensuite, la famille aussi me percute, puisque toute la famille tourne autour de moi. Et du coup, c'est des histoires. Et je comprends que mes parents psy ont peut-être caché la folie de mon frère qui est innommable, parce qu'il n'a pas de nom. Est-ce qu'il est motis? Est-ce qu'il est multipolaire? J'ai découvert, par exemple, qu'il avait 12 identités. Peut-être d'ailleurs qu'il a la mienne maintenant. Non, mais et que c'est pas moi qui vous parle. Enfin, non, ça c'est. Mais du coup, j'ai découvert une maladie qui n'avait pas de nom, en fait. Plusieurs maladies. C'est-à-dire, ouais, c'est une forme d'autisme qui mélangeait à la schizophrénie, qui mélangeait à la psychose, qui mélangeait à une grande détresse. Donc je tire le fil pour arriver à une corde. Et la corde, c'est celle dont je parle à la fin du roman. En fait, la corde qui entourait, je divulgâche La corde qui entourait le cou de mon frère quand il est né, en fait. J'arrive à cette corde-là, en fait.
Et je me dis, ombilical.
Oui, et puis mes parents se sont installés dans les Landes. Après, ça pose plein de questions. J'ai pas posé des questions à mes parents. Mais pourquoi mes parents sont allés s'enterrer? On avait dit la même chose pour Jean-Paul Kaufmann quand il était revenu, je crois, quand il était otage et qu'il s'était réinstallé dans les Landes. Mais pourquoi mes parents sont allés s'enterrer dans les Landes? Est-ce que c'était pour cacher la maladie de mon frère, en fait? Est-ce que ma mère, mon père était psy, plutôt psychologie des ressources humaines, sociales. Et à la fin de sa vie, je me suis rendu compte, mais c'est pareil, il ne me l'a pas dit, qu'en fait, il s'occupait d'autistes. Et au début de sa carrière, parce que ma mère a été psy, mais sur le tard, elle a repris ses études de psychologie très, très tard. Et finalement, ses premiers cas, c'était l'autisme aussi, en fait. Et elle soignait l'autisme avec les animaux en essayant de recréer le contact. Est-ce que cette maison dans les Landes, on était isolés, il y avait que de la forêt?
Avec la forêt tout autour.
La forêt effrayante. Et que j'ai fui cette forêt, parce que moi j'avais besoin de pollution, j'avais besoin de mégalopole, j'avais besoin de fuir ce calme apparent. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que c'était un laboratoire? Est-ce que c'est l'histoire d'une famille 68arde qui part dans les Landes pour cacher, et parce que c'est à l'époque, je suppose qu'ils sont installés là-bas dans les années 70. Est-ce que c'est l'histoire d'une famille qui veut essayer de soigner leur enfant, mais dans la forêt, avec les animaux, puisqu'on est on était entouré d'animaux. Est-ce que c'est ça l'histoire? Et finalement, est-ce que c'est l'histoire aussi d'un déni qui finit par exploser, en fait, à ma face, parce que moi qui ai fui, ironie du sort, ma famille, en fait, j'étais obligé d'aller, pas la sauver, mais porter le poids de cette histoire, de tirer les fils, en fait, qui n'avaient jamais été tirés, en fait.
Je vous propose d'écouter la voix d'André Gide, qui va revenir sur sa phrase, que vous connaissez bien, « Famille, je vous hais », extrait donc de ce livre magnifique qui s'appelle « Les nourritures terrestres ». C'est une archivina du 24 octobre 1949 et c'était au micro de Jean Amrouche.
Cette phrase est passée complètement inaperçue d'abord et elle n'a pris son caractère provocateur que quand elle a été dépouillée de son contexte. Quand on supprime ce qui suit le « Famille, je vous hais », foyer clos, porteur fermé, et c'est évidemment, ça prend un caractère provocateur et absolu que cela n'avait pas dans mon esprit. Que je suis fort content de l'avoir écrit, et je la maintiens. On est venu dire que je me plaignais, que j'avais à me plaindre de ma propre famille, ce qui est absolument faux. Je n'ai absolument eu qu'à me féliciter des miens, n'est-ce pas, qui ont toujours été parfaits pour moi. Je n'ai absolument pas eu personnellement à souffrir de ma famille. Je crois que dans les Faux-Monnayeurs, il y a certains passages sur cet égoïsme familial qui explique exactement ce que je voulais dire par ces mots, cette phrase. C'est la cellule sociale avec tout l'égoïsme que cela comporte.
Nous venons d'entendre la voix d'André Gide. Je crois qu'encore aujourd'hui, Les nourritures terrestres demeurent un des livres les plus importants qu'on lit à l'adolescence pour essayer de conforter ses propres angoisses et ses propres violences vis-à-vis de sa propre famille et pour se rassurer sur ces violences-là. Alors André Gide dit que non, famille, je vous hais, c'était... Non, écoutez, c'était quand même quelque chose de très important. Cette phrase, famille, je vous hais, est-ce que c'est la thématique principale de vos deux livres? Famille, je vous hais. Oui, il y a de la haine, ou plutôt, du règlement de compte, mais disons, une recherche d'identité personnelle pour démêler le vrai du faux dans ce qu'on n'a pas voulu vous transmettre à chacun d'entre vous. François Noudelman, famille, je vous hais, vous acceptez?
Oui. Ah mais oui, famille, je vois, parce que c'est une espèce de contestation du familialisme. C'est ça qui est insupportable dans la famille, c'est le familialisme. Maintenant, voilà, l'opposé de famille, je vois, c'est famille, je vous suis, je suis la famille. Bon, alors il y a deux manières de
je suis au sens d'être.
Voilà, c'est ça. Je vous suis.
Je suis au sens de suivre.
Les deux, je vous suis. Je fais la même chose. Je suis effectivement le fils de mon père, la fille de ma mère. Voilà, et je le suis et je suis le chemin. Donc, alors, il me semble que entre ces deux extrêmes, le refus de la famille, dire voilà, je vous hais et puis voilà, je suis tout seul et voilà, je suis sans famille, sans feu ni lieu. Et puis l'autre côté qui est au fond, vous savez un peu la psychogénéalogie. Il faut bien entrer dans ces figures d'ancêtres parce qu'au fond, on va comprendre que on hérite du traumatisme de l'arrière-grand-tante, etc. Bon, voilà, entre ces deux, je pense qu'il y a une manière de dire, famille, si je voulais jouer un peu sur les mots, je vous ai, verbe avoir, hey, ben oui, on a une famille. On l'a pas forcément choisi, rarement d'ailleurs. Bon, mais on l'a sur le dos un peu. Bon, et c'est difficile de s'en séparer. Alors, plutôt que de croire effectivement qu'on peut s'en abstraire totalement, je crois qu'il faut comprendre aussi ce qu'on retient d'elle, et bon, qui n'est pas forcément toujours négatif, mais en tout cas, voilà, l'admettre, l'assumer ce qu'on n'a pas choisi. Parce qu'au fond, la liberté, c'est pas oublier tous les conditionnements, c'est aussi comprendre ce qu'on n'a pas voulu, comprendre ce qu'on est malgré soi. Donc c'est aussi ça, malgré tout, la liberté bien comprise.
Famille, je vous hais, avait une connotation écrite par André Gide dans les années 50 comme un mode de contestation de sa propre identité par rapport à sa généalogie familiale. Aujourd'hui, ce famille, je vous hais, vous l'endossez, vous, Alexandre Labruf?
Je suis François. Mais je crois que la famille est un incendie, en fait, et les mots brûlent. C'est-à-dire qu'il y a tellement de non-dits. Moi, j'ai été élevé dans le silence, dans le non-dit, dans le déni, avec des parents psy, quand même, qui font parler les autres, mais pas à la maison, c'était le règne du silence. Et du coup, c'était la loi du silence. Pas la loi de la jungle. Mais avec mon frère, c'était la loi de la jungle, mais plus tard, en fait, ce qu'il a vécu, en tout cas.
Avec votre père, quand même, la relation est... difficile.
Elle est compliquée. Oui, c'était le totem de mon frère. En fait, c'est le modèle de mon frère qui a. Et c'est là où je voulais en venir. En fait, je crois qu'ils ont étouffé le fou qui couvait. Donc, ils ont étouffé. Mes parents psy ont étouffé un fou qui couvait dans la famille. Peut-être que moi aussi j'ai hérité ou je suis un peu particulier, peut-être, et j'ai hérité d'une forme de folie. Mais je crois que c'est. Je voulais parler moi de cet étouffement en faisant évidemment cette enquête familiale qui est un peu foutraque, qui est un peu. Et je voulais pas la faire avec. Je voulais en faire un drame burlesque. En fait, je voulais vraiment utiliser l'humour et comme arme, en fait, l'ironique aussi comme méthode de survie, parce que c'est aussi un chaos que j'ai traversé, en fait, l'arrestation, les gens qui rôdent, les huissiers qui saisissent la maison de mon père, et mon père effectivement qui est dans le déni le plus total. Lui-même, il a prétendu que son fils n'était pas le sien, en fait, pas moi, mais mon frère. Mais alors que c'était lui aussi repartait dans une enquête où il refaisait l'histoire et la reconstruisait. Et vous avez raison, Laure, en fait, on est toujours... la question est de savoir où est le vrai, où est le faux. Où est la fiction et la réalité. Donc j'ai essayé de démêler ça et je crois que j'ai pas de réponse, en fait. Où est la fiction et la réalité. J'en fais une autofiction un peu punk et psychédélique, mais j'ai pas la... Je voulais faire un guide de survie dans la brume. Je voulais parler de ces étouffements. Je voulais faire exploser le déni, le non-dit. En fait, c'était vraiment mon but en faisant. Donc, famille, je vous ai, mais avec un sans H et sans S, c'est ça.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Alexandre Labruf, Catonoma, Radioactivité.
Tune to enfance m'apparaît comme un monde si confus et si fourmillant qu'il m'est très difficile d'en détacher des souvenirs précis. Au fond, ce qui me paraît la dominer tout entière, c'est la mort de mon père que je n'ai pas connu, puisque j'avais 18 mois quand il nous a quittés. Mais quand je suis arrivé à la vie consciente, il me semble que cette grande émotion me pénétrait déjà, la présence de cet absent. Quand par exemple ma mère ouvrait son armoire à glace, c'est un de mes souvenirs, je crois, les plus lointains, la vue du chapeau de mon père qu'elle avait gardé, qui se trouvait là posé, n'est-ce pas, sur les piles de linge, la vue du chapeau de ce mort. Et à mesure que j'évoque ce souvenir, je me rends compte que ce qui a tout de suite dominé ma petite enfance, c'est la mort. C'est la pensée de la mort en général, de la mort des grandes personnes.
Il était toujours là. Il dînait beaucoup en ville, mais autrement, il était toujours là. Il nous laissait une extraordinaire liberté. Contrairement à ce qu'on croit, on se fait une idée complètement fausse de là. Il m'a donné une liberté totale et de lecture, et surtout quand j'ai eu la prétention de vouloir écrire moi aussi, au lieu de s'inquiéter, de se méfier, il m'a laissé entièrement libre. Si j'avais été un peu moins sage ou un peu plus fou, j'aurais publié un roman à 20 ans, j'aurais fait un mauvais Mauriac et ça aurait été désastreux. Je l'écoutais et je le fais parler. Il parle beaucoup. Très souvent, ce sont des choses drôles, car il avait un esprit extraordinaire. Et puis en même temps, je l'aimais douloureusement comme... Et toujours l'amour, on aime toujours tout seul. Lui m'aimait aussi sûrement un peu, et même beaucoup, mais il n'y a pas de communication. Et au fond, un des grands sujets de ce livre, c'est cette non-communication entre deux êtres, en tout cas de ma part. Donc moi, j'enregistrais, puis j'avais toujours peur qu'il meure. Tous les enfants sont comme ça, c'est la loi biologique. Et alors je me disais, quand il sera plus là, j'aurai au moins ça. Et je ne me trompais pas, puisque grâce à ce livre, je crois qu'il revit tout de même. Il n'avait pas besoin de ça, mais en plus, il y a ça.
Nous venons d'entendre Mauriac, père et fils. D'abord, François Mauriac, vous avez reconnu sa voix. C'était en 1952. Puis ensuite, son fils, Claude, c'était en 1981, qui a beaucoup écrit sur son père et qui a une œuvre littéraire aussi importante. Et à propos de Mauriac, père et fils, je pensais à vos deux ouvrages. Aussi bien vous, François Nudelman, dans Les enfants de Cadillac, on peut dire que peut-être, de manière consciente ou inconsciente, votre livre est aussi une adresse à votre père. D'ailleurs, vous parlez à votre père dans certaines pages de ce livre. Vous lui faites des reproches. Vous nous racontez comment il vous a élevé. Vous dites que votre père s'est donné à une activité principale qui était le papillonnage sexuel. Et que donc cela vous a permis de rencontrer beaucoup d'intérieurs différents, de modes de vie différents, d'instruction et d'éducation différents. Mais c'est aussi une adresse à votre père. Alexandre aussi, à l'intérieur de son nouveau livre, va raconter la manière dont son propre père va être percuté par la maladie de plus en plus affolante de son autre fils et comment peut-être il va se retrouver hospitalisé. Mais d'abord vous, François Nudelman, adresse à votre père aussi.
Oui, c'est certain, parce que bon, vous l'avez compris, évidemment, c'est peut-être aussi un livre qui est écrit pour lui. En certaine manière, c'est une histoire difficile entre lui et moi, parce qu'on a formé vraiment un couple, tous les deux.
Parce qu'il vous emmenait à chaque fois qu'il changeait de femme, quand même.
oui.
Il aurait pu vous laisser à une des femmes.
Oui, effectivement. Mais finalement, c'est moi qui ai fini par le laisser à une de ses dernières femmes. En fait, ce que j'ai essayé de dire, c'est à la fois quelque chose d'intime dans le rapport à mon père et aussi quelque chose de sociologique, si je peux prétendre à ça. C'est que, en fait, moi, je viens d'une famille, je suis première génération, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'études. Mes parents n'ont pas fait d'études, mon père était ouvrier à 13 ans. Et donc, j'étais pas du tout bon à l'école, je m'ennuyais profondément.
Vous faisiez croire quand même à votre père que vous étiez deuxième alors que vous étiez 22e, avant-dernier.
C'est ça. Mais au fond, c'est même pas que je faisais un refus de l'école, ça m'ennuyait, j'étais pas bon. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que bon, voilà, après je me suis quand même un peu rattrapé, quoi. J'aimais pas ça. Et donc, j'essayais d'expliquer aussi comment, je ne lisais pas, j'aimais pas la littérature. Et mon père me lisait, j'avais encore 13 ans, et il était désespéré parce qu'en l'école on lisait, mais c'est pas possible. Et alors il m'a lu L'Appel de la forêt de Jack London le soir, j'avais 13 ans. Je viens d'Apeloin et j'ai essayé d'expliquer comment on font des familles comme ça qui n'ont pas le bagage culturel. Aussi, en plus, mon père était il passait de ville en ville, donc au fond, il n'y avait pas d'attache. Comment, en fait, moi, j'ai découvert un petit peu les différents milieux sociaux, parce que il avait un plafond de verre, il n'y avait pas la culture sociale pour percer vraiment. J'ai découvert un peu les milieux sociaux. Grâce à ces femmes, à ces maîtresses. Donc certaines étaient effectivement, c'était plutôt des bourgeoises, mais plus ça dépend. Dans les bourgeoisies, il y a les petites, moyennes, etc. Il y a différentes formes de bourgeoisie. Et donc j'ai vraiment découvert le monde comme ça. Peut-être en les désirant un petit peu, mais j'étais quand même encore très jeune, inconsciemment sans doute. Mais j'ai découvert ce que c'était que mettre les comment on devait mettre les couverts à table chez l'une, chez l'autre, comment on devait traiter les rideaux, parler, entendre des mots que j'avais jamais entendus, le mot au vert, etc. Enfin bref, c'était des choses dont j'ai vraiment fait mon éducation sociale à travers ce papillonnage sexuel effectivement de mon père. Donc en fait je m'adresse à lui aussi parce que c'est une histoire aussi très très douloureuse pour moi. J'ai vraiment claqué la porte et puis ensuite c'est lui aussi qui a claqué la porte à sa manière. J'avais pas. J'avais laissé toutes les photos de mon père. Je parlais plus de lui.
Et il n'existait plus pour
vous. Il n'existait plus. Il est mort de mort volontaire, mais justement, moi après, comme Alexandre disait,
Volontaire, il s'est suicidé.
Oui. Alexandre disait, moi, je suis parti le plus loin possible, etc. Et moi, au fond, mon premier vrai départ aux États-Unis, c'était au siècle dernier. ça a été consécutif à ça. Je voulais vraiment tout oublier, Et donc là, en fait, je retrouve cette figure que je peux réécouter parce que je l'avais enregistré un jour. Je lui avais demandé de me raconter sa guerre, c'est les camps, etc. Et donc j'avais un enregistrement d'une dizaine d'heures et donc j'ai pu le réécouter. M'adresser à lui, retranscrire en quelque sorte cette espèce de dialogue que j'avais eu avec lui à ce moment-là. Et donc effectivement, c'est à la fois une figure qui me permet de parler de mon enfance et de ma formation et de ce couple un peu bizarre qu'on formait. Mais je raconte que moi je dormais avec lui. Je dis aussi quand même que les pères juifs sont des mères normales. Donc il faut pas s'inquiéter de ça et voir malice. C'est de parler de cela et puis aussi de parler de ce que c'est que la circulation dans des milieux sociaux lorsqu'on n'a pas forcément les assises, comme Bourdieu disait, l'héritage, le capital culturel ou le capital social, mais que justement par la sexualité il est possible de circuler un petit peu dans différentes strates de la société.
Alors vous, Alexandre, dans votre récit, le père se métamorphose. Il y a plusieurs images du père. Quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que au départ, c'est un père inquiet, vous associez à l'angoisse qu'il ressent, puisque votre frère a disparu. Ensuite, c'est un père que vous allez rassurer, puisque vous allez physiquement vous rendre dans cette maison des Landes que vous avez fui pendant si longtemps, et vous allez être à ses côtés dans la recherche éperdue, tous les deux, de son fils à lui et de votre propre frère. Et puis petit à petit, la maladie, elle était peut-être là d'ailles, à l'intérieur de son corps, on n'en sait rien puisque le récit ne le dit pas. Mais en tout cas, ce que vous nous restituez, c'est la manière dont l'inquiétude, l'angoisse de ce frère qui tourne mal,
et la honte,
vous avez tout à fait raison, va littéralement s'insinuer à l'intérieur de son propre corps et le rendre malade à en mourir.
Ouais, je vais rebondir d'abord sur ce qu'a dit François. Peut-être qu'on avait presque le même père, sauf que le mien, en fait, caché. Il a une maladie, c'est qu'il cache, en fait. Par exemple, quand j'ai démantelé sa maison qu'on a dû vendre parce que j'ai découvert qu'il avait des dettes invraisemblables et que la maison était cernée, par les huissiers, j'ai découvert une vingtaine de cachettes. Et chaque étagère, donc chaque livre, chaque étagère, il y avait des livres. Et dans chaque rangée, il y avait des cachettes. Par exemple, dans une rangée, il y avait les lettres de ses amantes, en fait. Donc, j'ai découvert comme ça qu'il avait une douzaine d'amantes. Et alors, au moins, il ne les a pas présentées. Voilà, elles sont, je les ai découvertes quand elles ont fréquenté l'hôpital. Mais elles non plus. Il jonglait, en fait, avec les femmes. Mais il a fini par divorcer avec ma mère, mais très, très, très tard. Il était dans le déni de son couple. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il avait, il jonglait avec une douzaine de femmes, en fait. C'est à peu près, il papillonnait aussi. Mais j'ai l'impression qu'il voulait poser la femme parfaite avec des femmes au caractère différent. Et c'est vrai que c'est une adresse que je lui dis deux choses à travers ce livre. En fait, je dis papa, tout se sait, tout se saura. En fait, tu as caché, parce que j'ai découvert des cartes bleues. J'ai découvert aussi un contrat qu'il avait fait avec mon frère et que mon frère il avait négocié un héritage en fait avec mon frère. J'ai découvert des godemichés, vous l'avez dit, des DVD porno, sur la bisexualité aussi. Donc papa, est-ce que tu es gay, bi, je sais pas en fait. Et j'ai pas pu lui poser la question puisqu'il est mort. Mais il y avait aussi une autre question douloureuse que je voulais lui poser. Et puis c'est aussi la question que François pose, en fait, c'est mais alors que fait-on des fous, hein, que fait-on d'un fou qui couve dans une famille? On le met dans une forêt, on le cache dans une forêt, on n'en fait rien en fait, on le couvre de cache, on l'oublie, ou alors on l'enferme dans un asile en fait. Qu'est-ce qu'on fait des fous? Et c'est vrai que la question en fait n'est pas réglée. C'est la Foucault avait posé ça à travers son livre La Folie sur la folie, en fait. Est-ce que les fous sont-ils des pestiférés? C'est vraiment cette question. Est-ce que c'est ça?
Justement, moi je voudrais vous faire écouter la voix de Michel Foucault. Michel Foucault qui va parler de ce mot qu'on utilise encore, peut-être un peu moins, mais qu'on utilise quand même encore aujourd'hui. Le mot malade mental, c'est une archivina du 10 mars 1975 et c'était au micro de Jacques Chancel.
Le mot qui me paraît le plus perfide, c'est pas le mot fou. Oui, bien sûr, vous avez l'usage courant, c'est un fou, c'est fou, etc., qui permet de disqualifier.
Oui, parce que la folie, c'est déjà autre chose.
Oui, mais si vous voulez, le mot est justement tellement galvaudé maintenant qu'il n'a plus beaucoup de pouvoir en lui. Le mot que je redoute, moi, c'est malade mental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce personnage indécis dont on riait, qu'on excluait, qu'on disqualifiait, mais à la limite, si vous voulez, qu'on acceptait, qui faisait partie du plasma social, à partir du moment où cet individu a reçu un statut précis, il est devenu le malade. Et en tant que malade, il doit être respecté, mais en tant que malade, il doit aussi tomber sous un pouvoir qui est le pouvoir canonique et institutionnel du médecin. Et c'est là, c'est si vous voulez, le passage du fou au malade, qui est apparemment une requalification, mais qui, à un autre niveau, est une prise de pouvoir. C'est cela qui m'a intéressé.
Ah, comme d'habitude, il nous sidère, Michel Foucault, quand il parle. Alors, vos deux livres sont très passionnants, ils se lisent d'une seule traite, ils sont très émouvants, d'abord parce qu'ils sont très bien écrits, chacun dans un style et un registre très personnel, mais aussi parce qu'il parle de secrets de famille et que ça nous intéresse toutes et tous, parce que ça nous renvoie aussi aux nôtres. Mais je voudrais aussi préciser aux auditrices et aux auditeurs que ces deux livres sont bouleversants parce qu'ils parlent de ceux dont on parle jamais, c'est-à-dire les fous. Prenons le mot fou et non pas malade mental, comme vient de le dire Foucault. Alors vous d'abord, François Noudelman, vous l'avez dit tout à l'heure, de ce fou-là, votre grand-père, Raïm, on ne parlait jamais parce que, et là je reprends le mot à Alexandre, parce qu'il y avait la honte, quoi. Et ce livre, c'est vraiment le sortir de la honte et lui donner un statut de quelqu'un qui a existé dans le monde et qui comptait. Vous lui donnez la vie.
Oui, alors c'était effectivement l'objet d'une enquête. Alors, à propos de termes, le terme qu'on employait à Jouem pour parler des gens comme mon grand-père, c'était « mutilé du cerveau ».
Oh, c'est encore pire que malade mental,
oui,
ça.
Mutilé du cerveau. Et donc, il y avait effectivement des places, et notamment à Cadillac, que j'ai trouvé, pour les mutilés du cerveau, ça s'est resté très très longtemps. Alors, c'était très intéressant, parce que j'ai fait toute une enquête dans les archives aussi, une enquête pas seulement sur mon grand-père, mais aussi sur les traitements, l'invention des traitements dans l'entre-deux-guerres, donc à l'hôpital Sainte-Anne, des choses qui paraissent, j'ai beau chose dire, folles. Des retraitements, c'est incroyable, l'imagination. Par exemple, d'infecter avec le palu pour provoquer des réactions, ou bien de mettre de l'électricité pour les gens qui sont neurasthéniques.
Voilà. Ça existe encore, hein.
Ah oui,
ouais.
Donc ouais. Il y a des traitements comme ça qui paraissent incroyables, et puis des modes. On voit, il y a eu des modes, voilà, des gens qui se sont fait des célébrités, des psychiatres sur des traitements très étonnants. Bon, c'est tout un univers, l'univers aussi de la présentation des malades. C'est terrifiant. Bon, je dis ça, moi j'ai pas
comme
le son à donner.
Comme des bêtes de scène.
C'est ça. Moi j'ai pas le son à donner. Je suis pas psychiatre. J'ai pas affaire, parce qu'aussi, bon, c'est facile aussi d'être en empathie quand on n'a pas affaire à des personnes qui sont pas des fous romantiques, mais ce sont des gens vraiment...
Enfin, il aurait peut-être pu vivre plus harmonieusement, votre grand-père.
C'est certain.
S'il avait été considéré.
C'est certain. Et encore, je ne sais pas au fond, voilà, parce que au fond, voilà, moi j'essaie de reconstruire une histoire, mais j'ai très très peu de choses. J'ai des diagnostics, je vois qu'il a fait des tentatives de suicide, des choses comme ça, bon, des comportements bizarres, voilà. Mais au fond, je ne sais rien, à part les diagnostics réguliers, et des fois je me dis, bon, si on veut faire l'histoire des fous aussi, il faut peut-être l'histoire de leur sensibilité, de leur passion, parce que des fois, voilà, on voit qu'il y a qu'un administrateur qui a voulu organiser des concerts à Sainte-Anne, qui a voulu faire les jolis jardins, etc. Puis je me dis peut-être qu'il a rencontré quelqu'un, un ami, une amie, etc. Donc quand on se met à réimaginer, bon, c'est comme par exemple, ça m'a amusé de savoir que au moment où il était interné à Sainte-Anne, Lacan est arrivé, voilà, il était en stage, donc je me suis dit, tiens, c'est amusant, est-ce qu'il aurait pu rencontrer Lacan. Voilà. Donc, bon, en fond, on est là aussi à projeter un petit peu nos imaginations, parce que c'est un territoire vierge. Je dois dire quand même que alors, j'ai eu beaucoup de mal à avoir accès aux archives, alors que pourtant, je suis le petit-fils. Mais elle m'a dit non, parce qu'il y a le secret médical, on doit avoir des tas d'autorisations, il faut attendre un délai extraordinaire et tout. Bon, par aussi quelques relations, j'ai pu avoir accès à ces dossiers, mais ça a été très, très difficile. Donc, au fond, il y a une espèce d'omerta sur cette histoire des traitements de la vie des patients donc moi j'ai vu des registres, c'était terriblement émouvant. Bon, évidemment, les historiens connaissent ça, mais bon, voilà, c'est terriblement émouvant de voir aussi d'où viennent ces gens, le nombre de femmes, le nombre de personnes qui viennent de telle ou telle région. Et au fond, voilà, la singularité de ce personnage qui était mon grand-père, qui voilà, un juif russe, qui débarque là. Bon, elle m'a permis tout d'un coup de voir une forêt de fous et qui sont effectivement, qui sont passionnants, même si on n'en connaît pas grand-chose. Mais on est un petit peu aussi condamné à imaginer. Bon, il ne faut pas inventer, il ne faut pas raconter n'importe quoi, mais parce que, voilà, ça pourrait être ci, mais ça pourrait être ça. Il a pu avoir des crises d'angoisse, c'est sûr, mais peut-être aussi qu'il a été heureux. Quand je l'imagine à Cadillac, il sortait un petit peu à Cadillac, il y avait les jeunes filles qui sortaient aussi, bon, qui étaient des filles condamnées aussi à la réclusion. Bon, qu'est-ce qui se passait? Il y a des témoignages, j'ai trouvé des petits carnets aussi de fous qui ont résidé là-bas et qui racontent aussi alors ça c'est le plus terrible aussi, c'est le personnel psychiatrique, surtout pendant la guerre. Voilà, il y a eu le coulage, vous savez ce que c'est bon, voilà, ils piquaient tout, les gens étaient dans un état de famine terrible, on leur piquait les vêtements, ils mangeaient des rats. Il y a des inspecteurs qui arrivent et qui racontent le dénuement incroyable dans lequel sont laissés les fous. Et pour juste dire une chose, c'est quand même terrible que voir même encore aujourd'hui, les derniers dont on s'occupe, ce sont les fous. Après les vieillards, après les prisonniers, les derniers qui sont toujours abandonnés, ce sont les fous.
Merci infiniment Alexandre Labruf donc pour ce livre qui paraît aux éditions Verticales. Et merci aussi infiniment François Noudelman pour ce livre qui s'intitule Les enfants de Cadillac. Il est marqué roman sur la couverture. Vous pouvez le lire aussi comme une histoire vraie. Et qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Merci infiniment à tous les deux.
Je suis tellement loin, c'est parti pour quelques heures. Écrire sur le monde, exilé dans simulateur, près de couleurs, transable en mouvement. Foncer, trop peu, c'est de plus penser. Cerveau danse, tant que débranché, sans te défense, plus rien de sensé. Sors dans ma tête, bouche, faut que je me teste, que je l'ouvre, ok. Trop de questions brusques, beaucoup de pression, muscles,
trop de stress, pas d'émotion. Agression à chaque réflexion, balle. Oppression à ta restriction, blague. Tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face. Balle ping. Je te demande un minimum de respect. Je calme mes nerfs, je vais ER tango. Je balance des phrases sur une compo. Je calme mes nerfs, je vais ER tango. Je balance des phrases sur une compo. Moro. T'arrêtes pas de causer du tort, tu t'ouvres les veines mais encore. Là t'ignores tous tes efforts, tour à tour les deux ports. Se fermer tu te fais des ports, s'il le faut tu le fais. Il est faux tu le sais, illico tu le fais. Silicone dans la fesse, une icône dans la presse. Une miche toi dans la tête, jamais seul tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corps, yeah. J'écris sur tout ce que je pense, et yeah. J'écris sur tout et son corps, qui yeah. Et sur ce que je risque d'apercevoir, yeah. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est ta chair, chante ta fragrance. Tout c'est sévère, de la menthe douce à l'ammoniaque. T'aimes le bandit que je suis, t'aimes la vie que tu me suis. Tu comptes sur mes économies, t'es ma que pour aujourd'hui. Tapis, j'ai fait doubler la mise, ben. Bientôt j'abandonne le vice, pas loin, j'prends vis et mer. J'calme mes nerfs, j'vois VER tango. J'balance des phrases sur une compo. J'calme mes nerfs, j'vois VER tango. J'balance des phrases sur une compo. Moro.
Et c'est avec Damso que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Julien Michel qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanissian et à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka pour son Very Good Trip.